monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Lors de ce 13e billet de Le Monde est beau sur l'initiative pour des multinationales responsables, nous vous proposons tout d'abord la lecture d'un article paru dans le quotidien Le Temps du vendredi 14 juin 2019, dont le titre est « Il faut des règles internationales », propos recueillis par Bernard Wüttrich à Berne. Fera suite le billet du citoyen paranoïaque, une contribution de Patrick Rion de la rédaction.
Droits humains. Le Conseil national confirme sa volonté d'opposer un contre-projet à l'initiative pour des entreprises responsables. Plusieurs associations romandes soutiennent la démarche. L'initiative populaire pour des entreprises responsables pourrait être retirée. Le Conseil national a confirmé jeudi, par 109 voix contre 69 et 7 abstentions, sa volonté de lui opposer un contre-projet indirect sous la forme d'une modification du Code des obligations. Encore faudra-t-il convaincre le Conseil des États. En mars, celui-ci a rejeté à la fois l'initiative et le contre-projet. Si les sénateurs changent d'avis cet automne, le Code des obligations sera renforcé. Les multinationales devront identifier les risques que leurs activités et celles de leurs filiales font peser sur les droits humains et l'environnement dans les pays où elles travaillent, notamment pour exploiter des matières premières. Elles pourront être poursuivies en Suisse en cas de violation grave de ces droits. Les grandes organisations économiques s'opposent aux deux textes. Toutefois, 6 associations fortement implantées en Suisse romande se sont adressées au Conseil national en l'invitant à soutenir le contre-projet. Il s'agit du groupement des entreprises multinationales, le GEM, de la Communauté d'intérêt du commerce de détail, de l'Association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime, de la Fédération des entreprises romandes, du Centre patronal et de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, le CCIG. Secrétaire général du GEM, Arnaud Burguin en explique les raisons. Pourquoi tenez-vous tant à ce qu'un contre-projet soit opposé à l'initiative ? Nous soutenons les principes fondamentaux de l'initiative, mais nous souhaitons qu'ils soient mis en œuvre de manière plus concrète et pragmatique. Le contre-projet en restreint le champ d'application en proposant des valeurs seuil. Le dispositif ne concernera que les sociétés qui dépasseront 2 années de suite deux des 3 valeurs suivantes. Un bilan de 40 millions de francs, un chiffre d'affaires de 80 millions et un effectif de 500 emplois à plein temps. Cela nous semble raisonnable. Les initiants ont promis que l'initiative serait retirée si le contre-projet passe la rampe. Les fournisseurs et les sous-traitants seront-ils aussi concernés par le devoir de diligence imposé aux multinationales ? Le contre-projet impose aux sociétés un devoir de diligence sur leurs activités, tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi que sur celles de leurs fournisseurs qui se comptent par dizaines, voire centaines de milliers. Toutefois, le contre-projet limite la responsabilité aux activités de leurs filiales. L'initiative a-t-elle servi d'aiguillon ? Des mesures ont-elles été prises sur une base volontaire ? Oui, des programmes de responsabilité sociale et environnementale ont été mis en place il y a déjà plusieurs années. Craignez-vous que, en cas d'échec du contre-projet, la Suisse se fasse imposer des mesures de l'extérieur ? Il y a des précédents dans d'autres domaines. Nous militons précisément pour l'harmonisation avec les règles en vigueur sur le plan international. Tel qu'il est prévu dans le contre-projet, le devoir de diligence s'inspire des principes directeurs de l'ONU et de l'OCDE.
Bonjour. Ce billet est une fiction où sont jetés pêle-mêle propos raisonnables ou extravagants. Il s'agit d'un article écrit par un citoyen s'estimant mal informé en termes de fiabilité, qui déplore une surabondance d'informations contradictoires, parmi lesquelles il se trouve désorienté. La situation sur laquelle il s'interroge trouve son origine dans les récentes annonces fracassantes de l'ONU et de l'OCDE qui semblent tous deux vouloir accélérer le processus d'encadrement des activités des multinationales. Il s'interroge au sujet de cet empressement subi qui lui semble suspect. Les propos naviguent entre réflexions plausibles et invraisemblables, mais pourtant venues à son esprit, et pour cette raison, ce billet s'intitule « Le billet du citoyen paranoïaque ».
Les récentes annonces faites par l'ONU et l'OCDE dans le cadre d'une réglementation encadrant les activités des multinationales peuvent susciter l'étonnement. Jusqu'ici, la lenteur, pouvant s'apparenter à de la mauvaise volonté, observée par les institutions internationales et les États à cet égard, n'a fait, de décennie en décennie, que se confirmer. Certes, on peut légitimer cette lenteur par la difficulté de la tâche à accomplir. Cependant, dans d'autres domaines plus essentiellement sociaux, tels que de nouveaux encadrements sur la législation du travail ou les conditions à revoir de l'AVS, sur le plan national, les difficultés sont en passe d'être surmontées assez rapidement. Sur un plan international maintenant, d'autres difficultés, liées par exemple à la sécurité, trouvent assez rapidement des consensus entre États pour égaliser et normaliser les mesures à prendre à l'échelle mondiale. On durcit assez rapidement les frontières face à une immigration menaçante. On renforce partout les appareils sécuritaires assez facilement et sans trop d'obstacles. Et pourtant, là aussi, les tâches ne sont pas aisées. Elles sont cependant, par certains, très souhaitées. Et c'est peut-être bien là que réside toute la différence. La question se pose donc au sujet des raisons qui motivent ce soudain empressement à voir se résoudre le problème de ces multinationales, qui défraient pourtant la chronique depuis pas mal de temps déjà. Faut-il y voir la réponse à une montée en puissance du phénomène dans l'opinion publique ? Il est vrai que celle-ci s'est accentuée en nombre et en indignation au cours de la décennie écoulée. Le nombre de documentaires réalisés sur ce sujet et l'accroissement d'une littérature dédiée à ce problème en témoignent. Il est vrai également qu'une prise de conscience, d'ailleurs très lente, se fait également au sujet de la relation existant entre l'immigration et la conduite de certaines multinationales dans les pays du Sud. Par ailleurs, la délocalisation, longtemps tenue dans les pays du Nord comme une bénédiction dans la voie du meilleur marché, commence à montrer de sérieux signes de difficulté à tenir ses engagements en cette matière sur la longue durée. D'autre part, cette voie du meilleur marché commence à susciter des inquiétudes dans les pays riches, dès lors que les premiers signes de précarité commencent à passer les frontières pour venir s'installer dans la quiétude confortable de classes pourtant réputées aisées. Et si l'aisance doit connaître des limites alors, certes, il est temps de se réveiller. Mais encore, faut-il que ce réveil soit lucide, et donc, dans ce sens, que le dormeur subitement réveillé se trouve, avant de réagir, correctement informé. Et là, peut-être, sent-on revenir la difficulté. Car il s'agit déjà de définir ce que l'on peut considérer comme information correcte venant d'un organe de presse, d'un politicien ou d'une entreprise concernée. Le premier point à considérer étant sans doute que de ces trois domaines d'activité ne peut et ne doit pas venir une information identique dans son contenu, mais peut et doit entretenir un rapport de véracité identique à l'égard des citoyennes et des citoyens. Par exemple, si l'on peut et doit s'attendre de la part d'un organe de presse à des explications détaillées et souvent complexes concernant un sujet donné, cet état de fait se justifie par le fait qu'une réflexion et une analyse, tout autant qu'un positionnement, est destinée à un lecteur ou une lectrice formée, ou qui désire se former, sur la question et qui dispose du temps et des compétences nécessaires à cette formation d'une opinion personnelle. Mais tous, au sein d'une collectivité publique, ne disposent pas de ce capital de potentiel de formation. Est-ce à dire, alors, que seuls ceux qui en disposent ont le droit de s'exprimer en connaissance de cause ? Si véritablement nous sommes en démocratie, il est évident que la réponse est non. Car, en vertu de quoi l'individu disposant de ce luxe de formation serait-il plus en droit de s'exprimer que celui qui n'en dispose pas? En vertu de quoi serait-il plus apte à se situer dans une position ou dans une autre sur des questions aussi simplement fondamentales qu'un respect de justice sociale, par exemple, ou d'avoir à se positionner au sujet de questions économiques qui peuvent le concerner? En tant que citoyen ou citoyenne, il ou elle participe également à la vie publique. Et on ne voit pas vraiment en quoi des questions telles que le niveau culturel ou intellectuel seraient en droit de le discriminer sur des questions aussi simples que, par exemple, d'avoir à dire s'il est plutôt du côté de la vérité ou du mensonge. Et certes, la question simple n'est pas simple. Tant entre l'un et l'autre, nous sommes perpétuellement tiraillés, entre notre conscience et nos intérêts, nous sommes sans cesse ballottés. Mais en quoi l'individu, cultivé et informé, diffère, sur ce plan, de celui qui ne l'est pas? En rien, naturellement. Aussi, cette simple question doit inviter tous les individus d'une collectivité, cultivée ou non, et dans cette question, à s'interroger. Car il s'agit de s'interroger soi-même au sujet de sa propre conduite, et tout individu peut et doit entretenir ce rapport de conscience avec lui-même. En tant qu'être qui se qualifie d'humain, nul ne peut en être dispensé. Si l'on revient maintenant à la complexité évoquée concernant certaines questions et à la lumière de ce qui vient d'être dit, si l'organe de presse permet à celui qui dispose d'un capital de formation de se faire une opinion, qui alors va s'occuper de celui ou celle qui n'en dispose pas? Car il s'agira ici d'analyser la question pour la simplifier jusqu'à obtenir un positionnement que le système de votation ramène à un oui ou à un non. Pas plus, vous êtes pour ou vous êtes contre. Ce travail de simplification, certes laborieux, et qui ne peut sans doute garantir à chaque fois son aboutissement vers un positionnement clair, sans faille, à qui reviendrait-il? Si ce n'est au personnel politique, censé faire le relais entre la population et la décision politique. Le problème, justement, c'est que si, actuellement, ce personnel excelle dans la simplification, il ne le fait que très rarement dans le sens de la vérité. La plupart du temps, déclarations tonitruantes, creuses et emphases de toutes sortes ne servent qu'à endoctriner, par la facilité justement, des populations de plus en plus désorientées et promptes à se raccrocher à n'importe quelle planche de salut, sans être conscients ni informés des conséquences que cet apparent salut prépare pour elles dans un futur proche. Et c'est que sur la simplification se greffe facilement la manipulation. Mais la simplification peut et doit être autre chose en termes de vulgarisation de l'objet politique si l'on veut véritablement atteindre l'objectif démocratique, si tant est que cette forme politique puisse véritablement constituer l'idéal qui lui est fréquemment attribué. Si maintenant on en revient à la question de départ concernant les tâches des différents vecteurs d'information que constituent les organes de presse, le personnel politique et l'entreprise, quelle première conclusion peut-on tirer de la réflexion concernant le personnel politique? C'est que celui-ci doit permettre à tous de se faire une idée claire sur la relation entre avantages et inconvénients d'une part et honnêteté et malhonnêteté d'autre part, au sujet d'un choix à effectuer. Le citoyen et la citoyenne doivent être renvoyés à un cas de conscience personnelle où il ou elle possède tous les éléments nécessaires à définir son choix en connaissance de cause. Tel devrait être le travail du personnel politique, plutôt que d'avoir sans cesse à manipuler l'opinion publique dans l'objectif de faveur électorale nécessaire à son maintien de carrière. Si l'on en vient maintenant à l'information que l'on peut attendre de l'entreprise, quelle devrait être sa nature? Pour ce qui est de l'information qu'elle diffuse en direction du grand public, on ne pourra évidemment pas s'attendre à une information exempte de toute publicité, puisque le propre de l'entreprise c'est évidemment d'entreprendre la vente de ses produits. C'est, en tous les cas, ce qui définit l'entreprise en tant qu'unité de production qui œuvre pour ses propres intérêts. On ne parlera pas ici de l'unité de production publique, puisque de toute manière, celle-ci est en voie de disparition. Mais pour ce qui est de l'entreprise privée, la publicité fait partie de l'entreprise elle-même, puisque la concurrence suppose la compétition. Et la compétition n'implique seulement l'effort de qualité, mais également celui de le claironner. Donc, l'entreprise va diffuser une information tout en faisant, ou pour faire, sa publicité. Mais quelle est donc la nature actuelle de la publicité ? À l'origine, la réclame, terme originel de la publicité évacué pour sa connotation négative, la réclame donc signalait au public l'existence d'un produit en définissant son usage, sa composition et ses prétendus bienfaits. Avec la première augmentation d'échelle de la concurrence et l'explosion de l'entreprise privée, la réclame, devenue alors publicité, a dû se diriger différemment. La cause en est sans doute principalement due au fait qu'on ne peut pas inventer des millions de méthodes pour faire le même produit. De l'un à l'autre, ils finissent forcément par se ressembler. En conséquence de quoi, il devenait difficile d'insister sur l'originalité et la qualité du produit, sans signaler du même coup leur étonnante similitude de l'un à l'autre. Et c'est là que la publicité est devenue communication, étendue depuis à l'ensemble des communications humaines, amalgame finalement bien pratique, qui permet nombre de distorsions et de manipulations au sein même du public. Et la publicité, du coup, s'angélise en se fondant dans la communication réputée des bienfaits de l'accès à la connaissance pour tous. Ce faisant, abandonnant le produit, elle se consacre à vendre le produit en passant par la connaissance. Elle s'amalgame aux problématiques sociales et environnementales, et c'est ainsi qu'elle vend des automobiles en protégeant l'ours polaire, qu'elle vend l'écologique alimentaire pour masquer sa production massive, qu'elle vend des fringues respectueuses de l'environnement, et qu'au bout du compte, tout le monde se fout complètement de la qualité du produit pour faire rejaillir sur lui-même des progrès socioculturels dont il devient le défenseur, mais en premier lieu le vantard, victime d'une flagornerie orchestrée à seule fin de permettre à l'entreprise de puiser dans son porte-monnaie. Au bout du compte, si on résume, comment l'entreprise informe actuellement le public ? Là aussi, en manipulant, en simplifiant à outrance des raisonnements pour les faire coïncider avec des arguments de vente aussi malhonnêtes que dissimulateurs d'une réalité qui fait qu'à un moment donné, la compétition cesse d'être le moteur de l'amélioration de la qualité pour devenir celui de lutte sauvage et stérile de producteurs d'imbécilité que nous soutenons pour que le PIB puisse continuer d'augmenter. Voilà l'information que diffuse non seulement la publicité, mais l'ensemble du système. Il est simple, taisez-vous et consommez. Fort de tout ce qui vient d'être dit, on se rend compte que manipulation, mensonge et malhonnêteté président désormais dans la composition sociale de nos collectivités. Mais ce pain d'amoralité a des conséquences, et c'est qu'il pousse chacun à la méfiance, et chacun devenant tour à tour bourreau ou victime, selon des hiérarchies sociales qui deviennent de plus en plus fragiles. Le mensonge institutionnel répondant au mensonge individuel, il s'ensuit que plus personne ne sait vraiment au-devant de quoi il va, ni même comment il se comporte, tant la question semble devenue futile, voire franchement rétrograde. Ainsi s'installe, dans notre société, une sorte de permanence, sous-jacente de l'esprit paranoïaque. Et c'est cette constatation qui ramène à la question de départ, à savoir qu'est-ce qui peut bien se passer, quelque part, et en certains points, pour qu'un tel empressement subi apparaissent dans le champ de la réglementation des multinationales. Et, pour illustrer mon propos concernant l'état d'esprit paranoïaque, je vais me prendre en exemple et vous dire ce qui, à ce sujet, m'a traversé l'esprit. Tout d'abord, constatant que la résistance des multinationales perdure chez certains, mais pas chez d'autres, la question se pose de savoir pourquoi. Certaines réponses ont été données à cela, en ce sens que certaines multinationales, agissant honnêtement, celles-ci ne supportent plus l'amalgame du synonyme multinational malhonnête. Cela se défend et de plus se comprend. Mais cela occulte tout de même en partie la question de savoir pourquoi l'entreprise veut devenir multinationale, si ce n'est pour des questions d'augmentation de ses profits. Cela occulte cette question fondamentale de savoir pourquoi et comment le principe de multinationale peut se justifier hors de considérations liées au profit. Sur ce sujet et pour ma part, je suis mal renseignée et ne peux pas être le seul dans cette situation. Et si l'on peut me répondre que c'est à moi de me renseigner, hors de ce que m'en disent institutions, gouvernements et entreprises, alors à quoi sert leur information ? De plus, cela repose la question posée préalablement des capacités d'analyse et de la disposition d'un temps nécessaire à ces investigations. Nous voyons clairement qu'à ce sujet, l'égalité de traitement n'est pas de mise. Pourtant, en tant que simple citoyen, ne devrais-je pas être en mesure de comprendre ce fait plutôt simple de savoir pourquoi une multinationale dans notre société doit exister. Mais de fait, hors de la notion d'augmentation des profits, je ne suis pas en mesure de me l'expliquer. Ce qui est juste ou faux, mais que je suis incapable de discerner. Ou alors, autre raison invoquée qui me revient à l'esprit, et que, produisant plus, on produit meilleur marché. Mais ce simple énoncé, qui défie le seul de ma logique, convoque à son tour la méfiance. Comment cela est-il possible ? J'utilise plus de matière, plus de travail, mais cela revient moins cher ? Alors interviennent les machines. Elles produisent plus, coûtent cher à l'investissement, et produisant et vendant plus, on accélère l'amortissement. Et on peut ensuite produire pour moins cher, la machine ne demandant pas de salaire. Mais alors, cela veut dire que la machine remplace les salaires et donc les ouvriers disparaissent. Et pourtant, l'entreprise prétend créer de l'emploi. Oui, mais dans d'autres secteurs, répond-elle. Mais dans lesquels ? Et cela ne répond pas à la question de savoir ce que deviennent les ouvriers. Certains se spécialisent et d'autres deviennent chômeurs. Mais la précision de la réponse ne va pas suffire à calmer mes appréhensions au sujet de la question. Soyons-en certains, car on nage ici en pleine généralité vague et du coup peu crédible. Car ce que je vois apparaître dans la réalité de notre société ne corrobore en rien ce discours de la reconversion. Car le chômage augmente et les chômeurs sont de plus en plus vus comme des fainéants qui ne veulent pas travailler. À partir de là, les questions s'accélèrent. Pourquoi s'implanter ailleurs ? Parce que la main-d'œuvre est moins chère. Alors, on délaisse les chômeurs en territoire national pour aller recommencer le même jeu ailleurs, ouvriers d'abord, machines ensuite et chômeurs à la fin. Mais pour encore moins cher. Les mécanismes des économies d'échelle, comme ils les appellent, commencent alors à apparaître. Mais pour la matière alors ? Comment plus pour moins cher ? Pour l'acheteur, pas de problème. Plus j'achète, moins je paye à l'unité. Pour le producteur, par contre, plus je travaille, moins je gagne à l'unité. Donc travailler encore plus, juste pour assurer ce qui, à la base, était le prix normal, mais qui ne l'est plus. Là, les logiques deviennent de plus en plus difficiles à appréhender, tant les concepts s'écartent de la réalité. Hors de l'opportunisme le plus cynique s'entend, qui lui, et en ce domaine, semble bien, bel et bien exister en tant que seule réalité. Ce qui fait qu'en définitive, les égoïsmes de l'entrepreneur servent à celui des collectivités et lui permet de prétendre qu'il œuvre pour le bien public. Quant à savoir de quel public il s'agit, on retrouve ici le bien nommé flou, poussant certains à la réflexion paranoïaque. Remarquons au passage que jusqu'ici, les questions que je pose me sont posées à moi-même, tant l'espace public de l'information devient aussi pléthorique que contradictoire. La désorientation menace, mais poursuivons. Dans ces réflexions, je n'ai toujours rien trouvé qui soit susceptible de me fournir une explication à la question posée, à savoir pourquoi ce subit empressement à l'intervention publique dans les affaires privées des multinationales. Les dégâts générés par ces industries et commerces deviendraient-ils subitement, irréversiblement dommageables pour l'ensemble de la planète ? Les interpellations et manifestations pour la protection du climat semblent indiquer cette piste. Reste que cela ne résout en rien le problème, car la question climatique n'est pas nouvelle, et pourtant, l'empressement jusqu'ici n'a jamais été de mise. La situation serait-elle devenue tragique et la situation de la Terre catastrophique? Si oui, il semble qu'une simple mesure de réglementation des multinationales ne puisse se révéler d'une efficacité suffisante. Sinon, alors quoi? Il faut répondre à la pression populaire? Mais là encore, on bute. La pression populaire allant dans ce sens s'accentue certes, mais elle n'est pas non plus nouvelle. Faut-il en déduire que le personnel politique ne réagit que lorsque la situation devient intolérable? Voilà que remettrait sérieusement en cause sa légitimité en tant que représentant du bien public et de la souveraineté populaire. Mais là encore, rien pour éclaircir la situation plus précisément. Faut-il en arriver alors, tout néophyte étant, à la question géopolitique et à ces gigantesques bagarres auxquelles se livrent entreprises et nations pour des captations de privilèges personnels, d'avantages fiscaux ou électoraux. S'il faut en arriver là, alors, force est d'admettre qu'effectivement, l'égalité de traitement dans le domaine de certaines connaissances n'est pas assurée. Car en quoi le simple citoyen que je suis est-il outillé pour se retrouver dans un univers dans lequel il se trouve subitement immergé, à seule fin de trouver des réponses simples à des questions simples? Et si, comme on l'a dit précédemment, la question ne peut pas être simple, qui donc va impartialement l'aider? Et j'insiste sur la notion d'impartialité, pour l'aider à s'y retrouver. Sa femme, prise dans les mêmes conditions de vie sans doute? Ses enfants, pliant sous le poids des devoirs, des courriers électroniques et des réseaux sociaux? Son patron, en tant que modèle d'impartialité? Ses collègues de bureau, pris dans le même piège d'une information contradictoire, pléthorique? Internet, nouveau dieu de la connaissance et complice, justement, des conditions actuelles d'information? Comme on le voit, ça rigole pas dans les chaumières. Parce que là encore, vont se bousculer de multiples suppositions. Par exemple, est-ce qu'une multinationale est parvenue, à force de puissance, à s'imposer en tant que force gouvernementale mondiale? Pourrait alors figurer, à son cahier des directives, l'injonction expresse à des institutions internationales devenues leurs subordonnées de mettre en place rapidement ce fameux dispositif concernant la régulation et qui, désormais, pénaliserait toutes les multinationales, sauf celles-ci, échappant à ce statut du fait qu'elles seraient devenues force gouvernementale. Voilà qui illustrerait parfaitement le stade ultime, l'aboutissement parfait du dénouement du jeu de la compétition et de la concurrence. Et ainsi, loin du fameux statut de gagnant-gagnant, on comprendrait enfin, ainsi, qu'un seul gagne vraiment. Autre possibilité. On assiste actuellement à une montée en puissance de stimulation à l'animosité des peuples d'Amérique du Nord et de l'Occident envers la Chine et la Russie. Toute ruse de discrédit est utilisée et aucun moyen de diffamation n'est négligé. Ainsi, une nouvelle guerre froide est engagée. Et les raisons invoquées ne manquent pas. Par exemple, ingérence de ces nations devenues impériales dans d'autres régions du monde, et comme si l'Occident et l'Amérique s'interdisaient l'emploi de tels stratagèmes géopolitiques. Ou alors, espionnage commercial, comme si le phénomène était nouveau et exclusivement utilisé par les deux puissances. Ou encore, protectionnisme, dégénérant en concurrence déloyale vis-à-vis du commerce international. Sans oublier certaines interventions militaires suspectes ou franchement illégales, et là encore, comme si ces deux nations étaient les seules à recourir à d'aussi déplorables conduites. Ou encore, mais cela ne nous est que rarement dit, parce que ces deux puissances, lassées de ne pas être reconnues à part entière comme telles, passent de nombreux accords, de partenariats, comme on dit pour les traités, et qui portent ombrage à la suprématie anglo-saxonne étendue à l'Europe. Comme on voit, des suppositions, il peut y en avoir. Et dans le cas précis, l'empressement subi pour un encadrement des multinationales pourrait être conçu pour en pénaliser certaines et pas d'autres. Et en conséquence de ce qui vient d'être dit, suivez mon regard. Mais bon, toujours rien pour répondre à une question si simple en apparence, que donc personne ne semble se la poser. Pourquoi ce subit empressement à vouloir réglementer ? D'un autre côté, la question peut être aussi que si on règle officiellement, on arrêtera d'en causer. Et comme finalement, on ne nous dira pas grand-chose de substantiel concernant ce qui aura été décidé, cela peut être un simple tour de passe-passe pour nous tranquilliser une fois de plus. Pourtant, je ne me trouve, face à cette question, ni tranquille, ni apaisée. Plutôt désorientée et tourmentée. Serait-ce le but ? N'oublions pas qu'il s'agit ici du billet paranoïaque et que donc toutes les éventualités sont autorisées à s'exprimer. Mais au fait, si la question est donc complexe ou qu'elle ne mérite même pas d'être exposée, cet empressement ne serait-il pas destiné à nous empêcher de réfléchir en périphérie de cette volonté de réglementation ? On veut réglementer, y compris les tribunaux d'arbitrage, qui devraient plutôt disparaître. Et, tiens, mais j'y songe, voilà une question simple. On nous montre la solution de l'arbitrage. On l'a dit complexe et réservée aux seuls experts formés sur la question. Mais ne serait-il pas temps d'éliminer les questions jugées trop complexes pour être livrées en examen à des esprits non avertis ? Alors finalement, en termes d'utilité publique, et comme on dit volontiers par exemple, à quoi servent les chômeurs alors qu'ils servent à permettre à d'autres d'occuper des emplois qu'ils n'auront plus ? À quoi sert la multinationale en termes d'utilité publique ? Car à défaut de trouver, peut-être serait-il plus simple de les démanteler, de les éliminer ? Du coup, cela éliminerait également cette question jugée trop complexe. Mais alors, je réponds tout faux, complètement à côté de la question de départ. Ce qui voudrait dire qu'en certaines occasions, pour répondre aux questions complexes, il faut répondre à côté ? Si l'auditeur ou l'auditrice reste perplexe face à cette diatribe, à cet article, qu'il ou elle ne se tourmente pas outre mesure à ce sujet. Ceci est parfaitement normal. Je me suis personnellement bien assez tourmentée jusqu'ici. Et il faut savoir partager.
Tout le monde, il est beau, le commerce réjouit.
Au terme de ce 13e billet de Le Monde est beau sur l'initiative pour des multinationales responsables, nous tenons à remercier Nicolas Delémont et Alex Vito pour leur contribution à la lecture des articles. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre la diffusion de cette série d'émissions. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.
Thank you.